Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. En ces temps de neige et de trottoir pas facile à emprunter, c'est logique d'avoir comme premier chemin à l'émission la consultation sur la sécurité routière. Donc on pose même la question, est-ce que cette consultation fait une place aux personnes en situation de handicap? On en discute dans quelques instants avec le porte-parole de la consultation, Alain Jelly. On rencontre aussi Wasila Djabi et c'est pas facile non plus, reconnaissons-le, d'être en ce moment une femme en situation de handicap, mais aussi issue d'immigration et à plus forte raison musulmane. On en discute avec Wasila. On parle langage accessible sur le web avec Vincent François et interaction avec les personnes ayant subi un AVC avec l'aspirante chercheuse Carole Anglade. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. La sécurité routière, ça nous concerne tous et c'est jusqu'au 3 mars prochain que se tiennent les consultations sur la sécurité routière, donc au Québec. Si vous êtes un citoyen organisé ou un groupe qui défend des droits, n'oubliez pas qu'il est possible de déposer un mémoire ou de répondre à un questionnaire en ligne en visitant le consultation.saaq.gouv.qc.ca. Donc, avec nous, Alain Jelly, co-porte-parole de cette consultation, qui va nous présenter un peu mieux ce qu'on doit dire, ou plutôt sur quoi on doit se prononcer. Bonjour, M. Jelly.
Bon midi à vous.
Merci d'être avec nous.
Avec grand plaisir.
Donc, quel bilan dressez-vous jusqu'à maintenant de la consultation? Est-ce que vous trouvez que les personnes participent, qu'ils sont au courant qu'elle se tient?
Bien, moi, je vous dirais que l'information a été diffusée à l'ensemble des citoyens québécois, à partir des différents médias, et les gens répondent assez bien. Je vous dirais, c'est intéressant et c'est positif dans la réponse, parce que dans un premier temps, les gens peuvent répondre en remplissant le questionnaire. Vous avez une quinzaine de thématiques qui vous sont offertes. Vous pouvez les commenter et aussi offrir certaines problématiques, préoccupations que vous avez. Et si vous voulez offrir des pistes de solutions, vous pouvez le faire, tout en faisant aussi un rapport qui peut être déposé, un mémoire, comme certaines autres organisations, mais je vous dirais que c'est très positif jusqu'à maintenant.
OK, donc ça se fait, peut-être pas en nombre impressionnant, mais en nombre important. Il faut dire que cette consultation va avoir un impact sur le code de sécurité routière, c'est bien ça?
Absolument. Okay. Il faut savoir que lorsque le ministre Lessard a confirmé la tenue de la consultation, son objectif à lui, c'était d'entendre les citoyens partager leurs préoccupations en sécurité routière afin de pouvoir trouver une façon de diminuer et l'améliorer, le bilan routier.
OK. Mais ceci dit, le bilan routier, on le dit, là, il y a moins d'accidentés aujourd'hui. C'est sûr que l'alcool est préoccupant, l'usage du texto, j'allais dire, du cellulaire au volant, c'est préoccupant, mais c'est quand même un phénomène qui est moins important, en fait, en termes de morts et de blessés. Mais moi, ce que je me pose comme question aujourd'hui, et c'est la même chose probablement pour les auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez anticipé des questions, des enjeux qui touchent l'accessibilité ou les personnes qui ont des limitations fonctionnelles dans la consultation?
Écoutez, tout à fait. Ce groupe de personnes-là qui représentent des différents, exemple, les handicapés, avec toutes sortes de particularités personnelles, que ce soit malentendant, que ce soit handicapé visuel, je vous dirais qu'au moment où on a commencé, initié la, la consultation. À Chibougamau, on a déjà des gens qui nous ont interpellés. Mm-hmm. Dernièrement, nous entendions des gens, pas plus loin que dans la grande région de Gatineau, mm-hmm. une dame qui nous a partagé sa préoccupation. C'était une handicapée visuelle et elle nous a sorti un petit peu un menu qui nous permettait de se questionner sur l'isolement de ces gens-là, parce que d'un côté, on les invite à faire partie de notre grande société, de participer, mais d'un autre côté, vous savez, l'hiver étant ce qu'elle est, oui. elle représente une difficulté majeure pour ces gens-là. Alors, si je regarde les différentes problématiques qui ont été soulevées, d'abord, l'importance de bien déneiger tous les accès. On parle du trottoir. Si vous voulez que ces gens-là se déplacent, mm-hmm. il faut que le trottoir soit bien déblayé pour leur faciliter
Évidemment.
Justement un accès.
Mais ça,
et
mais la ça c'est la ville. Ça, c'est la ville qui est responsable oui. de ce dossier-là. Parlons des responsabilités ministérielles. Bon, vous le savez, une dame aveugle vous a présenté oui. sa vie. Les gens qui nous écoutent aussi très souvent doivent composer avec... disons, une route compliquée, mais oui. en ce moment, il y a entre autres les voitures électriques dont on parle beaucoup.
Oui.
Et elles sont le plus souvent silencieuses. Est-ce oui. que vous avez entendu oui. des revendications à l'effet d'ajouter un indice sonore?
Absolument. Mm-hmm. Cette dame-là, entre autres, ça a été, puis elle avait un caractère particulier de nous traduire fidèlement sa préoccupation. C'était quelque chose qu'elle a précisé. L'arrivée des véhicules électriques, mm-hmm. avec l'absence de bruit et de son qu'ils peuvent émettre, représente une difficulté pour les handicapés qui sont soit malentendants ou même visuels, parce que si vous ne l'entendez pas puis vous n'avez pas cette préoccupation-là, vous allez peut-être vouloir risquer de ouais. traverser la rue.
Absolument.
Donc ça, cette problématique-là a été identifiée. Nous l'avons bien reçue
bon.
Et ça fait partie des pistes qui seront justement proposées pour que l'ensemble du portrait soit concret.
Dans les documents de consultation qui sont très précis d'ailleurs, où il y a des enjeux très précis qui ont été pointés, on parle de ces personnes qui utilisent une aide à la mobilité motorisée et oui. on identifie, on dit en fait qu'elles sont vulnérables. Par contre, vous le savez, oui. il y a un décret qui a amené un projet pilote, beaucoup de réactions négatives par rapport au groupe des groupes de personnes handicapées face à ce décret-là. Entre autres, la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, qui va sûrement déposer un mémoire, rappelle que la dignité sécuritaire, c'est quelque chose auquel on pense peu. C'est-à-dire, on veut protéger les personnes, mais des fois, par toutes sortes de règles, notamment le décret, on les empêche de faire des choix qui pourraient leur donner plus de possibilités parce qu'on ne les traite pas toujours comme des piétons. Comment vous réagissez à ce que la COFAN a pu dire? Comment vous réagissez au décret qui est en vigueur avec son projet pilote?
OK. Moi, ce que je vous dirais présentement, sans avoir à commenter l'ensemble des préoccupations de la COFAN, mm-hmm. moi, je vous dirais, je vais y aller avec ce que j'ai entendu de la part de citoyens qui représentent des organismes locaux mm-hmm. qui, eux autres, font ressortir, exemple, le passage piétonnier.
Oui.
La période sonore ou la période de traversée oui. est trop réduite pour ces personnes-là qui fait en sorte qu'ils n'osent pas traverser le boulevard qui leur permet d'avoir accès, exemple, au centre commercial ou au service d'alimentation qui est de l'autre côté. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on a entendu de la part de gens qui sont soit à Gatineau ou ailleurs. Ces gens-là nous ont traduit fidèlement leurs préoccupations. Donc ça, on l'entend et on va en faire un point de sensibilisation pour que le ministre puisse être attentif à ça. Mais au-delà de ça, on a parlé aussi de configuration de trottoir, on a parlé de la hauteur qui est inaccessible,
okay.
on a parlé de certaines pentes qui sont trop abruptes, on a parlé d'accès qui sont trop limités. Mm-hmm. Donc, que ces gens-là soient avec une assistance technique, soit un quadriporteur ou autre chose, mais ils disent, écoutez, je suis encore très limité, bien que je veuille me déplacer. Donc ça, oui, vous l'avez dit, il y a un enjeu, disons, municipal, mais si on en fait une concertation puis une préoccupation globale pour l'ensemble des interpellés qui se sont présentés, bien, ça a un impact au niveau du ministre, puis ça peut peut-être favoriser, du moins améliorer la problématique qui est identifiée par ces gens-là. Moi,
donc, on compte sur vous pour amener ces préoccupations-là. Aussi, la question, je l'ai soulevée auprès de membres d'un groupe qui s'appelle Transport Mais Adapté pour savoir ce qu'ils avaient envie de communiquer, ce qui est important pour eux en termes de sécurité routière. Et on voit deux préoccupations assez importantes. Bon, le fanion orange, il y a eu des négociations. Il n'est plus nécessaire de le porter en tout lieu, sauf quand on doit sur la route aller à plus que 70 km/h puis qu'on est sur l'accotement. Mais les parents en situation de handicap sont inquiets parce que pour l'instant, ce que le décret du ministre dit, c'est que quand l'enfant y a plus que 5 ans, ils ne peuvent pas le transporter avec eux. Puis même quand il y a 5 ans ou moins, ils doivent le transporter avec un espèce de dispositif, puis ça prend, une lettre d'ergo, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez entendu parler de ces revendications-là spécifiques?
Non. Il n'y a pas eu de revendication de cet ordre-là qui a été formulée jusqu'à maintenant. Okay. Je vous rappelle que ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas inscrits dans les prochaines consultations. Parce qu'après avoir fait Chibougamo, Gatineau, Val-d'Or et Rimouski présentement, on n'a pas entendu autre que, entre autres, deux organismes, Mobilio à Gatineau. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'entendra pas les préoccupations de ces gens-là. Mais derrière tout ça, il y a quand même la préoccupation. Et ça ne veut pas dire que si les gens ne se font pas entendre dans la consultation, ça ne les empêche pas de vouloir présenter un mémoire ou de soulever une problématique avec des pistes de solutions pour faire entendre leurs opinions. Vous savez, il n'y a que ces gens-là qui sont parents d'enfants qui sont dans ces situations-là pour pouvoir traduire fidèlement les pistes de solutions et les préoccupations. Et ça, on va
donc
tout mettre ça ensemble.
C'est à bras ouverts que vous les accueillez, que vous accueillez ces revendications-là. Écoutez, en terminant, rappelez aux gens qu'ils ont seulement jusqu'au 3 mars. C'est quand même pas beaucoup, mais il faut le faire. Et il est possible d'aller déposer mémoire ou participer au questionnaire sur consultation.saaq.gouv.qc.ca. Il y a aussi des consultations physiques. Il y en a une à Montréal prochainement?
Oui, alors la date m'échappe présentement dans le tableau, là, mais sachez que vous allez entendre de la publicité qui va nous permettre de savoir quand on est à Montréal. Mm-hmm. Je pense qu'on est en fin février.
OK, donc on surveille ça.
28 février, qu'on me dit.
Bon, 28 février.
Oui, j'invite les gens, comme vous l'avez si bien dit, à remplir le questionnaire et à partager leur opinion parce que la sécurité routière, ça nous concerne tous et ça concerne ces gens-là aussi.
Bien. Merci, Monsieur Gély, d'avoir participé.
Le plaisir a été pour moi. Bonne journée.
Bonne journée. Avec nous, Vincent François, chroniqueur techno et aussi expert senior en accessibilité du web dans la vie. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être là de nouveau pour cette deuxième chronique. Alors aujourd'hui, on joue avec les mots pour s'assurer de faire des sites web lisibles par le plus grand nombre.
Oui, effectivement. Alors jouer sur les mots, c'est ce qu'on va éviter de faire le plus possible parce que c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer.
Ah oui, hein?
Alors effectivement, on va parler aujourd'hui d'accessibilité cognitive. Dans la quatre familles de situations de handicap dont on traite pour l'accessibilité numérique, la plus nombreuse, c'est aussi la moins riche en règles d'accessibilité, c'est la plus complexe à circonscrire et c'est la plus difficile à traiter. C'est toute la famille des handicaps dits cognitifs. L'enjeu est de trouver des ponts pour franchir les obstacles d'accessibilité qui sont liés aux technologies, aux situations de mauvaise compréhension, et c'est souvent lié aux questions de langage.
Ah, oui.
Le web étant encore un élément textuel, il y a une grande partie de l'information qui est transmise à travers les mots qu'on utilise, à travers les formes de langage, que ce soit du langage écrit ou du langage parlé. Et donc, on a des problèmes à traiter liés au handicap cognitif.
Mais avant de préciser ce qu'on doit faire pour bien rédiger, à qui on s'adresse quand on améliore l'accessibilité, disons, langagière de nos sites web?
Alors, on parle des gens qui ont des handicaps cognitifs et on parle des gens qui ont des difficultés d'apprentissage.
Okay.
Et ces handicaps et ces situations de difficulté vont toucher les problèmes de mémoire, donc la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire visuelle, même la mémoire auditive, se retrouver dans ce qu'on vient de percevoir comme information. Il y a aussi toutes les questions liées à l'exécution pratique des commandes, le contrôle émotionnel, la planification, l'organisation, l'exécution des tâches, l'interaction sur un site web, ça consiste à faire des choix avec son corps, avec ses capacités de jugement. Il y a aussi tout ce qui touche les capacités de raisonnement, le raisonnement logique, l'intelligence mathématique, les questions d'abstraction aussi, d'être capable de saisir
tout
ça.
En gros, il faut s'adresser aux gens qui font partie du grand groupe, à peu près la moitié de la population, qui sont en alphabète fonctionnel, alors, qui présentent des difficultés.
Exactement.
De ce type-là.
C'est-à-dire qu'on a aussi, comme on est beaucoup dans l'écrit, on a une grande partie de la population qui ne saisira pas ou très difficilement ce qu'on aura écrit. Donc on parle aussi des problèmes d'alphabétisation, on parle des problèmes de capacité du langage, de perception, la question de l'attention, ça aussi, c'est peut-être le mal du siècle sur le web.
Il est renforcé d'ailleurs quand on est sur le web, mais bon, c'est notre histoire.
Il y a même des gens qui sont payés cher pour essayer de nous attirer dans les publicités, etc. Donc, on se bat aussi contre les capacités du marketing. Et puis, donc voilà, on a toutes ces ensembles de situations qui posent problème et qui sont difficiles à traiter. Quelles sont les règles à appliquer pour s'assurer de toucher aussi bien des gens qui ont des problèmes de compréhension que des gens qui ont des problèmes de compréhension, de concentration ou de compréhension, etc., ou de comportement. Alors, on a des bonnes pratiques pour ça et qui ne sont pas encore tout à fait fixées comme des règles.
Elles ne sont pas encore connues non plus.
Elles sont évidemment assez mal connues. Et elles sont, mais en même temps, elles sont difficiles à appliquer parce que, justement, on va voir quelles sont ces bonnes pratiques et souvent, elles peuvent rendre difficile finalement le travail.
OK, mais malgré tout, à quoi on doit faire attention?
Alors, on doit faire attention de savoir à qui on parle. C'est la base de la communication, de se rappeler pour qui on communique et ne pas se lancer dans l'écriture pour soi-même. Je fais un site web pour ma compagnie et donc je vais je vais jargonner dans mon domaine, je vais pérorer, je vais être content de dire d'étaler tout ce que j'ai de beau à dire. Non, j'ai à parler à des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à mon sujet autant que moi, sinon ils feraient mon métier, qui n'ont pas nécessairement mes capacités intellectuelles, qui n'ont pas le temps non plus de s'intéresser à la question. Et du coup, il faut que je simplifie mon langage. Il faut aussi parler directement aux personnes, s'assurer de faire que les gens se sentent visés. Il faut aussi avoir une forme active de discussion, faire des phrases courtes, faire des phrases qui sont des sections de phrases courtes, éviter des grandes digressions avec des subordonnées relatives, etc. un peu, dans mes cours d'accessibilité, je pense souvent à Proust, demandant aux gens, est-ce que vous connaissez Proust?
Oui, mais j'avoue que j'imagine assez mal, par exemple, des tweets avec Proust.
C'est vrai.
Mais un site web, il ne faut pas oublier. Donc, parmi les pratiques, il y a simplifier, il y a d'adopter un style direct.
Langage, c'est un style direct. Utiliser des mots concrets, des mots familiers, éviter donc des mots trop jargonesques ou alors les expliciter. Éviter les mots supplémentaires, éviter de charger le langage et de noyer les gens dans les problèmes de compréhension. Utiliser des listes et des tables plus que des paragraphes, parfois ça peut être très très utile, beaucoup plus que ce qu'on fait dans le papier ou dans la littérature. Et puis c'est essentiellement ça qu'on va mettre en avant.
Bien.
On considère au Canada qu'il y a 4 à 5 niveaux de compétences de langage. Et on a, par exemple, dans le standard du gouvernement du Québec en accessibilité, l'idée de respecter ce qui est le niveau 3. Alors, dans les 4, 5 niveaux, il y a un premier niveau qui est 17% de la population qui a un niveau de compétences très faible en écrit. Ensuite, on a 25% au niveau 2 qui est un niveau de compétences qui se limite à lire des textes très simples, qui correspondent à des tâches peu complexes, des listes de courses, des listes d'instructions à faire, à suivre. Niveau 3, qui est 35% de la population, on a un niveau de compétence nécessaire pour terminer les études secondaires et accéder aux études supérieures. Donc, fin de secondaire 5 à peu près, plus ou moins acquis.
Mais c'est quand même élevé. Est-ce qu'aux gens qui sont au niveau 1 et 2, il ne faut pas leur offrir un substitut ou langage simplifié?
Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on fait le travail en double? Parce que c'est ça que ça veut dire. Faire un substitut, c'est faire le travail en double.
Mais on n'est pas capable de descendre un peu les standards. Excusez-moi, c'est le gars de défense de droit qui s'approche tout à coup.
C'est la bonne discussion qu'il faut avoir.
Ouais.
Simplement, l'idée, c'est de toucher tout le monde. Donc, en diminuant son langage, on peut aussi perdre les gens qui, eux, n'auraient pas eu de problème de compréhension. C'est-à-dire
Donc, quand on simplifie à outrance, il y a vraiment des lecteurs qui passent à côté, qui décident de ne pas fréquenter le site?
Je pense que oui.
C'est un vrai problème, ça.
Oui, c'est un vrai problème. Ce qu'on conseille plus, c'est de doubler le langage. Alors, viser un niveau 3, donc viser des gens de secondaire 5. Alors, moi, comme je dis à la blague, c'est facile, on enlève tous les adverbes, les adjectifs, puis on rajoute genre, c'est là, partout, puis secondaire 5 comprennent très, très bien.
Ou on s'assoit à table avec son adolescente pour rédiger son site web.
C'est ça.
C'est bon.
Et puis, ou alors, on peut rajouter des schémas, rajouter une petite vidéo explicative, rajouter une image, rajouter des explications supplémentaires. L'idée est en plus d'élever les gens qui ont des difficultés que de se mettre à se rabaisser son propre langage. C'est ça aussi qui est important.
Mais la vidéo, on s'assure quand même de la sous-titrer par ailleurs.
Ben bien sûr, bien sûr. Elle suit les mêmes règles que le reste.
Ouais.
Mais quoique le sous-titrage vidéo est moins important si on a le texte à côté qui fait déjà la job.
OK, donc bon. Ça sera un compromis peut-être.
Et pour conclure là-dessus, je dirais que la question des handicaps cognitifs passe à travers le langage, donc le choix des mots, le choix des tournures, du niveau du langage, et qu'une bonne façon de voir ça, c'est de se dire, moi-même, avec toutes mes capacités cognitives qui ne sont pas remises en question, quand je visite un site web qui est dans une langue étrangère, dans quelle situation je me trouve? Moi, je me trouve dans une situation de handicap cognitif léger. Je parle anglais, mais mon niveau baisse un petit peu en anglais, en russe, en allemand
aussi.
Donc,
c'est la posture qu'il faut avoir.
Oui,
imaginez
que vous
lisez pas le même langage que vous êtes habitué d'employer.
Écrivez pour des gens qui n'ont pas le français ou l'anglais en langue naturelle.
Parfait. Merci, Vincent François. Très éclairant, comme d'habitude. On se retrouve dans un mois.
À bientôt.
Voici le temps de cette chronique où on rencontre quelqu'un qui a la tête dans la recherche pour le monde en situation de handicap. Donc avec nous, la doctorante en orthophonie, Carole Anglade, pour parler langage. Bonjour, Carole Anglade.
Bonjour, Benoît. Bonne Saint-Valentin.
Ben oui, c'est heureux. Vous êtes la première qui me l'a souhaité. Ben, je suis content que vous soyez aussi notre Valentine de recherche. Vous vous intéressez aux interactions, il y a plusieurs choses, même l'amour, des personnes qui ont un trouble de langage suite à un AVC. C'est bien ça?
C'est ça, tout à fait. En fait, ça me fait une magnifique transition avec M. François juste avant, qui parlait du langage, puis ma population d'intérêt est complètement concernée par ses préoccupations. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, moi, je suis au doctorat en orthophonie à l'Université de Montréal, puis mon sujet d'intérêt de recherche, c'est la réinsertion sociale des personnes qui vivent avec un trouble de communication qu'on appelle aphasie.
Ah, l'aphasie, donc.
Oui, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont soudainement été privés de leur capacité à communiquer, partiellement ou totalement, en général suite à une lésion neurologique, comme par exemple un accident vasculaire cérébral ou, comme on dit, un AVC.
Donc, ces gens-là, vous avez eu envie de travailler pour comprendre comment ils s'exprimaient, ils interagissaient. Pourquoi?
Ça remonte à maintenant, ça va faire plus d'une décennie. En fait, vers 20 ans, je me questionnais sur ma future vie professionnelle. Puis j'ai rencontré pour la première fois une personne qui vivait avec une aphasie sévère. Donc c'est quelqu'un qui pouvait tout à fait me comprendre, mais avec qui j'avais l'impression que je ne pouvais absolument pas communiquer parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore les outils. Ça a vraiment été comme une révélation et je me suis alors dirigée vers l'orthophonie dans le but de me spécialiser auprès de cette population, d'abord en tant que clinicienne.
Donc, vous avez aidé des gens d'abord en première ligne.
Je
sais que c'est impossible, mais je vous amène quand même dans cette mission. C'est quoi la grande question que vous vous posez dans vos recherches?
La grande question que je me pose, c'est, ça répond à ce que j'ai pu observer dans mes 3 ans de pratique professionnelle en réadaptation, où vraiment je travaillais avec des gens qui se réveillaient un matin avec une aphasie, donc qui essayaient de reprendre le train de leur vie en marche. Puis j'ai vraiment constaté qu'ils avaient de la difficulté à reprendre des interactions avec les personnes inconnues de leur environnement. Puis alors, pourquoi les inconnus, vous me direz?
Ben oui, exact.
Ben oui, il y en a plein des gens. Pourquoi les inconnus? Parce que en fait, ils sont nombreux dans nos activités, dans nos cadres de vie, en fait, journaliers, à vous comme à moi. Il y a les commis dans les épiceries, les serveurs dans les restaurants, les guichetiers à la banque. Vous ne les connaissez pas et pourtant, vous leur parlez à tous les jours. Ils sont vraiment une composante inévitable d'une communication si vous voulez, d'une participation sociale pleine et satisfaisante. Puis c'est vraiment difficile à retrouver pour les personnes ayant une aphasie.
Puis on s'en rend compte, là. Imaginez, quand vous connaissez bien quelqu'un, vous n'employez pas le même langage, vous n'avez pas besoin de répéter toutes les préambules qu'on fait quand on ne connaît pas quelqu'un. Mais imaginez, en plus, quand vous êtes aphasique.
Hein? C'est ça, c'est ça. Puis là, vous avez des gens qui ne comprennent pas forcément en face qu'est-ce qui vous arrive, puis qui ne comprennent pas que vous comprenez, parce que la plupart comprennent vraiment très, très bien. Et donc, c'est ça. Je m'intéresse vraiment aux interactions qui peuvent exister naturellement dans le quotidien pour les personnes qui ont une aphasie, puis qui sont quand même autonomes, parce que c'est cette autonomie qui est relevée dans la littérature comme étant un des facteurs qui permet de bien vivre avec l'aphasie, parce qu'il y a des gens qui vivent bien avec une aphasie. Ouais. Puis donc, du coup, pendant ma collecte de données, j'ai suivi des personnes avec leur accord, des personnes ayant une aphasie dans leurs sorties puis leurs activités de tous les jours. Et quand c'était possible, j'ai enregistré, en fait, j'ai filmé les échanges qu'elles avaient avec des interlocuteurs non familiers et en plus de leur proposer des entrevues.
Mmh. Donc, vous avez d'abord observé en situation réelle ce qui se passait, là.
Exactement. Mmh. Puis là, ce que je suis en train de faire, c'est d'analyser les interactions qui ont eu lieu et je regarde comment elles se déroulent malgré le trouble de communication.
Okay.
Je regarde ce que font les personnes qui ont de l'aphasie puis ce que font leurs interlocuteurs pour réussir cette interaction puisque, en fait, ils m'ont tous dit qu'ils les avaient évaluées comme satisfaisantes. Donc, j'ai une trentaine d'interactions qui se passent bien malgré un trouble de communication puis je regarde un peu c'est quoi les notions clés ou les outils qu'ils ont mis à leur disposition.
OK, donc dans le fond, les tactiques que les gens peuvent avoir pour que ça se passe bien, parce que ce que vous avez constaté, c'est que ça se passe souvent bien, mais qu'est-ce qu'elles font ces personnes pour que ça se passe bien?
Eh bien, c'est ça. Moi, j'ai certains de mes participants qui m'ont complètement époustouflée. Il y en a qui ne pouvaient pas dire un seul mot, puis qui, par exemple, m'ont prouvé dans mes enregistrements qu'ils sont capables d'initier, de maintenir et de conclure une conversation en faisant des gestes, des onomatopées avec un communiqué qui leur était complètement inconnu, puis modifiant ainsi l'interaction qui était une simple transaction. J'échange un produit contre de l'argent. Et la faisant évoluer vers, finalement, un réel échange social, en plus de remplir l'objectif de base.
Est-ce que rire, est-ce qu'on s'amuse en le faisant? Parce que j'ai souvent vu ça comme tactique. Je côtoie des gens aphasiques, entre autres, puis ils essaient d'utiliser un peu la blague, des gestes, pour dédramatiser à chaque fois. Est-ce que vous avez repéré ça souvent?
C'est pas le cas de tous, mais oui, il y en a qui vont l'utiliser. Il y en a qui, au contraire, vont chercher à éviter toute situation qui pourrait jouer un rôle de perturbateur dans la communication. Donc, ils vont s'en tenir plus à leur rôle de client versus la fonction en face du serveur. Mm-hmm. Mais en tout cas, oui, ils réussissent tous, par une façon ou une autre, de remplir leur objectif initial. Puis, ce que moi, mon objectif, en fait, c'est de faire remonter un peu dans les services de réadaptation ces informations-là.
Ah, pour faire comprendre les gens qui interviennent un peu mieux cette interaction possible avec les gens qui ont l'aphasie, c'est ça?
Oui, et puis surtout pour l'encourager et la soutenir auprès des personnes qui sont encore à l'hôpital, comme les personnes avec qui j'ai travaillé avant de commencer mon doctorat, et puis qui, pour beaucoup, ont l'impression que leur vie s'est arrêtée, leur vie avec justement ces personnes non familières s'est arrêtée parce que...
Carole Anglade, vous me permettez de faire le lien de vos deux mondes. Vous avez intervenu, vous comprenez maintenant comment ça se passe. Écoutez, on continue de surveiller ce que vous allez découvrir. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir vos recherches ou ce que vous faites?
Oui, tout à fait. Il y a mon site, carole-anglade.com.
Bon, on y va alors. carole-anglade.com. C'est tout le temps qu'on avait. Je suis vraiment désolé.
Ah, c'est pas grave.
Mais on vous réinvite.
Volontiers. Voilà. Volontiers. Merci beaucoup.
Au plaisir. Merci.
Au revoir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Wassila Djabi, c'est une femme infatigable, défenseuse des droits des femmes en situation de handicap. Elle a un parcours du Maghreb au Québec et toujours avec l'émancipation des personnes en tête. Alors, je suis très content de vous la présenter aujourd'hui. Bonjour, Wassila Djabi.
Oui, bonjour.
Merci d'être là avec nous.
Je vous remercie de m'avoir invité.
C'est un plaisir. Écoutez, on vous croise souvent quand on est dans le milieu, dans une manifestation ou pour une conférence sur les droits. Mais avant tout, Wassila, parlez-nous un peu de vous. Vous venez d'où, Wassila?
Ah, moi, d'où? Bon.
Bonne question, hein?
Oui. En fait, je suis d'origine originaire de l'Algérie.
Oui.
Donc, je suis arrivée au Québec en 99, en septembre 98, 99, pardon, mm-hmm. Et le 28 septembre exactement.
Ah, vous vous rappelez de la date?
Un 11 septembre, heureusement.
Oui, heureusement, oui. Oui, je suis désolée, c'était pas drôle, mais c'est vrai que c'est drôle un peu aussi maintenant.
Drôle et pas drôle, en voilà. Fait. C'est la vie, hein? Il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs.
Voilà.
Mais on va essayer d'aller dans le positif, dans le meilleur du monde.
Ben voilà, mais donc, effectivement, 28 septembre, c'est un peu mieux que 11 septembre, mais vous êtes venu à Montréal comme réfugié, n'est-ce pas?
Oui, oui, absolument. Mm. En fait, mon mari avait des problèmes dans le pays. Bon, c'était un jeune militant, ouais. Un petit peu. Bon, bref, donc je suis arrivée avec mon mari, enfin mon ex actuellement.
Oui, c'est ça.
Oui. Et oui, il en a passé de l'eau sous les ponts. Hein. Et mon fils qui avait 3 ans et demi ouais. À l'époque. Donc, je suis rentrée par la colle. Et chose étonnante, j'étais accueillie très agréablement, pardon, mm-hmm. au niveau des frontières. Et on m'a dit « Bienvenue au Canada ».
Et vous avez été surprise un peu, non?
Tout à fait, tout à fait. La personne était vraiment très chaleureuse pour okay. quelqu'un, pour des personnes qui demandent l'asile. C'était un accueil très chaleureux.
Par ailleurs, à l'époque, ouais. vous étiez en béquille, etc. Vous avez observé oui. qu'on n'était peut-être pas habitué à ça.
Oui, peut-être. En fait, mais vraiment, Oui, peut-être que oui. L'humain en lui a parlé, je ne sais pas. Écoutez, je me suis pas questionnée plus que ça à ce moment-là. Ouais. C'est juste que j'étais agréablement surprise.
Okay.
Surtout que j'arrivais des États-Unis, de New York, et j'ai pas aimé du tout. Je me sentais, j'étais très angoissée quand j'ai mis les pieds au Québec finalement.
Mmh. Ouais.
Je me suis dit là, je suis chez moi. Vraiment, j'ai eu un soulagement indescriptible.
Ben, c'est heureux d'entendre ça, en fait, que vous avez, vous avez senti de la chaleur en arrivant. Mais oui. bon, comme vous le savez, il existe une loi maintenant, la loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui limite l'accueil de personnes en situation de handicap parce que l'article 38, je suis désolé, je me transforme en juriste 2 secondes.
Non, allez-y, allez-y.
L'article 38 de la loi dit qu'elle pourrait exclure une personne qui risque, et je cite, « d'entraîner un fardeau excessif ». Voilà.
Ouais,
comment vous réagissez à ça? Parce que, bon, vous avez milité pour les femmes, mais aussi pour les personnes en situation de handicap militantes.
Pour les personnes handicapées, je ne peux pas me soustraire de la condition de femme. Je suis une femme avant tout.
Oui.
Et je suis aussi une personne, je suis un tout qui ne peut pas être disséqué, en fait. Donc, c'est de chercher à avoir la partie femme, la partie... c'est pas l'individu, c'est dans sa totalité.
Ouais.
Donc, ça n'a pas de sens de disséquer la personne, en fait.
Mais vous êtes très entière.
Pardon?
Vous êtes très entière, on le sait. Ouais. Mais donc, pour
oui,
ces personnes...
Quel beau jeu de mots, là!
Ah, ça arrive!
Oui. Ça me coûte beaucoup d'elle, en fait. Hein? J'en
ouais.
ai beaucoup, mais ça me coûte beaucoup d'elle ouais. d'être entière.
Mais moi, j'apprécie Wassila Djabi. On est content que vous soyez là justement parce que vous êtes entière et vous avez...
Appelez-moi Wassila parce que pour moi, mon identité, c'est mon prénom.
OK, donc Wassila.
J'aime beaucoup, oui, Wassila.
Bon.
Ouais. Qui veut dire en arabe en passant, solution, moyen, but et méthode.
Ah oui, à ce point-là, tout ça en même temps?
Oui, selon le contexte, absolument, oui.
Oh. Est-ce que vous êtes une concrète? Est-ce que vous militez pour des solutions?
Oui, je suis une concrète, mais en même temps... évidemment, c'est sûr que je suis un peu plus concrète que théorique, parce que de mon académique, j'étais plus une scientifique qu'une personne de lettres et
okay.
tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc moi, je suis une concrète terre à terre, hein, des fois, hein, très terre à terre.
Bon, écoutez, pour la loi sur l'immigration, je sais que vous avez déjà
oui, pour revenir à la loi
fait
sur
du travail à cet égard, oui.
Oui, absolument. Écoutez, je vais dire très franchement, de mon parcours personnel,
oui.
De mon parcours, je fais un pléonasme, en tout cas. Parce que moi, j'avais entamé la procédure d'immigration régulière.
Ouais.
Avant même de connaître mon conjoint, j'étais en France. Je faisais pour faire le doctorat, en fait, mais que je n'ai jamais terminé.
Mm-hmm.
Bref. Et j'ai fait les démarches. Et ma peur, tellement, en fait, l'exclusion par rapport au handicap,
mm-hmm.
j'ai fait appel à un avocat, ici au Québec. J'ai commencé à payer, je voyais que les frais s'augmentaient, parce que j'avais peur d'être refusée parce que j'étais handicapée.
Ouais.
Donc, à l'époque, je ne connaissais pas vraiment toutes les finesses de la chose.
Mm.
Et finalement, j'ai arrêté et entre-temps, j'ai connu mon conjoint. Bon, et les choses se sont présentées différemment et tout ça. Et finalement, on est rentré comme réfugié parce que lui, il avait besoin de rentrer. Et on a choisi le Québec parce que c'est le Québec, on entendait beaucoup de bien dans le sens la francophonie, ça c'était important, le français, même si l'Algérie n'est pas reconnue pays dans la francophonie, mais bon, on connaît bien les... Pourquoi?
Ben hein, oui, ben,
dedans.
Ben, il y a quelque chose, il y a quelque chose de politique, effectivement.
Comme dirait Maria, ma mentor décédée malheureusement, il y a rien de il y a le politique est personnel et le personnel est politique.
C'est, voilà. Vous parlez de Maria Barilé, en fait,
oui,
qui était une activiste qui est décédée il y a deux ans.
Je vais vous en parler enfin, un peu plus là, c'est juste pour revenir à votre question par rapport à la question du fardeau excessif là.
Ouais.
Donc ça a été une crainte pour moi. Mm-hmm. Et quand je suis rentrée comme réfugiée, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que pour les réfugiés, le fardeau excessif ne s'appliquait pas et c'était un gain qui a été au bénéfice de tous, mm-hmm, et de toutes, fait donc parce qu'il y a eu des revendications du milieu des personnes immigrantes et personnes handicapées conjointement,
ouais,
pour que ce fardeau soit retiré quand c'est des personnes qui arrivent comme réfugiés. Mm. Parce que quand ils arrivent comme réfugiés, ce n'est pas la même donne que arriver que
comme immigrant.
L'immigration.
Ben voilà. Oui, c'est donc, ça. C'est un devoir, en fait, que d'accueillir des personnes,
oui,
réfugiées.
Oui.
Écoutez, nous sommes encore atterrés de cette tragédie qui a emporté des personnes musulmanes il y a maintenant presque deux semaines. On voit se réveiller peut-être des discours intolérants là, qui visent souvent, voyons-le, les femmes voilées. Est-ce que vous avez vu changer les regards depuis? À cause de votre voile, là, même si on vous connaît, vous venez de toutes sortes de combats, est-ce que vous, oui, sentez que c'est plus difficile pour vous d'être une femme musulmane et en situation d'handicap?
Je vous dirais que c'est... Oui, il y a un changement. Hmm. La seule chose, c'est qu'à l'époque où j'ai... Enfin, parce que ça fait environ un an. Hein. Et l'hiver, à la limite, ça se camoufle plus, le voile.
Ouais.
Avec le bonnet, tatata, avec tout ce qu'on doit mettre par-dessus la tête. Je pense qu'on n'est pas les seuls à se mettre quelque chose par-dessus la tête. Donc, ça
non,
se voit un
ça.
Peu moins.
Ouais.
Bon, mon accent n'a pas changé, mais à la limite, je vous dirais que le regard, il peut être positif et il peut être négatif avant le voile.
Ouais.
Parce que ça dépend. Il y a des gens qui sont saisis par la façon comment je parle, j'ai une certaine autorité. Mais en fait, tout ça, c'est que des défenses. Hein. C'est
ouais,
des moyens
des fois,
de se défendre.
Hein.
On n'a pas le choix quand on vit avec un handicap. On se fait écraser, on se fait... Donc, j'ai dû me développer en fonction de ça, mm-hmm, et grâce à ça aussi. OK?
OK.
Oui.
Ben, donc
parce que moi, je ne voudrais pas revenir en arrière. Moi, j'ai vécu mon handicap de toute petite, bref.
Donc, parlons d'aujourd'hui,
Wassila. C'est beaucoup de bref, hein, parce que sinon, je m'étale.
Non, non, ça va. Mais parlons d'aujourd'hui, Wassila. Vous avez
d'aujourd'hui.
Un parcours étonnant. Vous avez été notamment présidente d'Action Femmes Handicapées. Mmh. Et vous êtes engagée un peu partout. Mais j'aurais envie de faire entendre aux gens qui nous écoutent une vidéo à laquelle vous avez participé récemment. On l'entend, puis on revient ensuite.
OK, d'accord, là je vois c'est quoi.
Docteur Barrett, suite à des coupures successives dans mes heures de soutien à domicile, je suis dans un état de dépendance. Je suis coupée, brimée dans mon autonomie, dans mon rôle de femme, de conjointe et de mère. Docteur Barrett, j'aimerais tellement pouvoir dire à mon mari, à mon fils, aime-moi plutôt qu'aide-moi.
En fait, si vous avez envie de retrouver ça, il faut aller sur YouTube. On écrit Wassila Djabi, ex aequo, on retrouve la vidéo. Cette parole-là que vous avez dit assez forte, j'aimerais, Monsieur Barrett, Docteur Barrett, d'arrêter de dire « aide-moi, mais aime-moi à mon fils et à mon mari ».
Oui.
Comment ça résonne encore aujourd'hui pour vous?
Ça résonne tout d'actualité. Parce que c'est vrai que ça semble mélodrame un petit peu, mais c'est la réalité, c'est vraiment ce qui se passe le quotidien. Mes relations, c'est-à-dire je ne suis plus dans une relation de plaisir, mais c'est dans une relation de contrainte, je crois.
Oui.
C'est le type de contrainte. Je n'ai plus de service, je n'ai plus rien.
Écoutez, voici là. Je suis désolé, on manque un peu.
Oui.
Non. En fait, c'est pas ça. Je voulais vous entendre, mais votre cellulaire a fait quelques problèmes.
OK.
Donc, on n'avait pas entendu. Donc, pour vous, le manque de service, c'est criant en ce moment.
Eh bien, c'est clair. Écoutez, je peux vous dire, je suis en épuisement. Là, comme vous disiez tout à l'heure que je suis partout, je ne suis plus nulle part maintenant.
Ouais.
Je n'ai plus l'énergie de gérer tout ça. Donc, j'ai tout arrêté, mon bénévolat, à part dans ma coopérative où je vis.
Ouais. Okay? Parce que le manque de service est trop important.
Non, il est trop important. Je suis épuisée à faire toutes les charges que je dois faire.
Ouais.
Ça ne marche plus. Et d'être dans une dynamique constante de quémander, c'est horrible. Mon fils ne conçoit pas l'idée d'être là mon serviteur, comme il dit. Je ne suis pas ton serviteur.
Ben oui. Mais surtout, okay, demander à un jeune adulte, un adolescent, tous les parents à la maison vous entendent. C'est très difficile de leur demander de faire leur chambre. Alors, s'aider, c'est presque contre nature. Là.
Oui, absolument. Ouais. Mais je veux dire un peu plus, je suis désolée de dire ça, mais cette société d'individualisme fait aussi que mon fils est un Québécois d'ici, quoi, hein, si vous voulez. Hein. Parce que bon, on a des Québécois un peu partout aussi dans le monde, ils voyagent. Hein.
Oui, voilà.
Bon,
ouais.
C'est ce que je veux dire, mais je veux dire, je fais un jeu de mots, mais ça n'a rien à voir. Bref, on passe à autre chose.
Non, donc, on entend ce que vous voulez dire. C'est en fait des gens comme vous qui vous battez, qui devez réclamer des droits, ont aussi besoin de services et ils sont inadéquats en ce moment pour la participation sociale.
Oui.
Ça serait peut-être ça votre message final.
Nous sommes dans un épuisement.
Mm-hmm.
Moi, je suis épuisée à force d'avoir revendiqué, parce que je ne revendiquais pas pour ma condition. Pour nous, pour toute la société, parce que tout le monde est appelé à un moment donné à vivre dans une situation de dépendance ou de handicap tout simplement.
Voilà. Donc, comme ça va toucher tout le monde, ce qu'on devrait dire, c'est qu'il faut donner les services suffisants pour que les personnes en situation de handicap n'aient pas besoin de demander.
Pas demander, c'est quémander.
C'est
pire que ça. Vous savez, les services, pourquoi ils me les ont coupés?
Mm-hmm.
Ils m'ont dit que j'avais un adolescent maintenant, donc c'était plus un enfant, et que mon nouveau conjoint était arrivé.
Mm-hmm.
Et donc, c'était plus à eux de prendre le relais. Comment voulez-vous que ces gens aillent travailler? Parce que quand on est dans un couple où les personnes, disons, ne vivent pas avec de handicap, en tout cas, qui leur prennent toute l'énergie, il y a un certain équilibre qui s'établit dans le meilleur du monde.
Ouais.
Mais quand c'est une personne qui est limitée, mais elle n'est pas limitée parce qu'elle l'a choisi.
Mm-hmm.
C'est comme ça, c'est notre destinée, entre guillemets. Moi, je crois au destin. Et bien, c'est comme ça. Il faut une société qui prend soin de ces personnes, qu'elles soient âgées, jeunes, peu importe. En tout cas, c'était toute la richesse à une certaine époque du Québec.
Ouais.
Oui, peut-être vous me diriez un peu trop bon, trop con. Non, c'est pas vrai. Ça faisait tout le bon.
Donc, en somme,
vous pouvez pas savoir l'émotion que j'ai ressentie en arrivant au Québec.
Ouais, ben voici là. Écoutez, voici là, Djabi. On a beaucoup d'émotions quand on vous entend parce qu'on a envie que on vous assure les services suffisants pour que vous continuiez à vous battre pour nos droits à tous et toutes. Merci beaucoup, voici là, Djabi.
C'est déjà fini, j'ai rien dit!
Ah non! Non, il y a plein de choses qui ont été dites. Mais surtout, on continue de vous suivre. Merci, okay,
Wassila. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis désolée. Hein, je me laisse aller parce que je ne parle pas beaucoup de moi en général.
Non,
donc,
faut pas s'excuser. On apprécie votre fougue et on vous suit dans vos combats. À bientôt,
merci.
Wassila Djabi.
Merci, au plaisir. Au revoir.
Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à ces faits saillants de la partie finale de la Ligue de hockey des aveugles, mettant aux prises les cataractes de Shawinigan, Haut-de-Locombe, de Saint-Léonard. Vous êtes en compagnie de votre humble serviteur.
Peut-être certains d'entre vous reconnaîtrez ce sketch qui a été diffusé en 1986 à l'émission Rock et Belles Oreilles par le groupe d'humour éponyme. C'était un sketch évidemment très irrévérencieux, très caricatural, qui mettait en scène des joueurs de hockey qui étaient des personnes aveugles. Et bon, je vous épargne un peu les détails, mais je vous le dis, c'était quand même extrêmement caricatural, ne serait-ce que par la vision de ce gardien de but qui était tourné vers le but et plusieurs joueurs qui incarnaient les clichés qu'on reconnaît pour les personnes aveugles. Donc, irrévérencieux, caricatural, mais néanmoins bénéfique, puisqu'à l'époque, la Fondation des aveugles a reçu entre 5 et 10 000 $ dans les mois qui ont suivi la diffusion de ce sketch. Ça a donc attisé la curiosité du public en ce qui a trait aux enjeux des personnes non-voyantes. Et même, le groupe a reçu, à la fin des années 80, le prix Denis Lazure. Donc, irrévérencieux, caricatural, irrespectueux, peut-être pas, mais certainement avant-gardiste, voire prophétique, puisque le hockey pour les personnes aveugles est désormais un sport qui existe. C'est un véritable mouvement qu'on voit non seulement au Canada, mais également aux États-Unis. Un sport, bon, dont les règles sont similaires à celui du hockey, mais évidemment qui se déroule un peu différemment, avec une rondelle sonore, avec évidemment un déroulement beaucoup plus lent, mais néanmoins un grand progrès pour ce qui est de la pratique du sport pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, et donc qui n'a jamais dit que la parodie et l'humour, parfois même un peu disgracieux, ne pouvaient pas faire acte d'avant-garde.
Une jeune femme en situation d'handicap, Cynthia Amel-Gamache, est non seulement une ambassadrice pour les amputés de guerre, mais elle y est aussi responsable des communications. Donc bonjour Cynthia Amel-Gamache.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, je me permets de vous parler cœur à cœur aujourd'hui. C'est peut-être un coming out, mais parce que j'ai aussi une prothèse, je sais que ça peut être une motivation, mais même des fois, c'est un obstacle parce qu'on veut passer à autre chose. Mais d'abord, vous, qu'est-ce que vous avez vécu?
Bien, en fait, moi, je suis née avec une amputation congénitale à la jambe droite ainsi qu'au pied gauche.
OK.
J'ai commencé à marcher avec des prothèses. J'ai appris à vivre avec des prothèses, en fait. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a donné le plus de soutien par rapport à mes amputations, en fait. Mm-hmm. C'est les amputés de guerre.
Mais oui, en fait, les amputés il y a un programme guerre, auquel oui, vous avez participé en particulier. Mais donc, vous avez décidé de joindre le programme un jour. Pourquoi exactement?
Mais en fait, c'est à l'âge où je me suis inscrite, en fait, c'est mes parents qui ont pris la décision. Mm-hmm. Parce que ça peut être un petit peu difficile de vivre avec une situation comme ça quand on a peu d'informations, on n'a pas nécessairement d'exemples autour de nous. Surtout qu'on remonte, moi j'ai 23 ans, on remonte en 1993. Ouais. C'est sûr qu'il n'y avait pas autant l'avènement d'Internet. Donc c'est certain que ça a été vraiment un soulagement pour mes parents de voir des enfants amputés et même des adultes performer dans la vie et de vivre une vie dite « normale », entre guillemets.
Mais au-delà de vivre normalement, comme vous le dites, c'était vraiment difficile de retrouver des personnes qui vivaient la même chose que nous. On n'avait pas à chercher qu'un groupe en quelques clics. Là.
Non,
les lieux étaient rares.
En fait, moi-même, dans ma situation, j'étais la seule qui vivait cette situation-là dans mon école primaire ou secondaire. Mm-hmm. Donc, c'est certain que ça permet de sortir de l'isolement, en fait, en tant que personne amputée, de voir que c'est possible de faire des études, de vivre une relation amoureuse, de vraiment continuer une vie dite normale et de ne pas nécessairement s'arrêter à l'amputation, puisque ça fait partie de nous, mais ça nous fait pas en tant que personne, en fait.
Mais j'avais envie de parler de ce véhicule-là parce que, bon, quand on est en fauteuil, quand c'est annoncé d'avance qu'on est en situation d'handicap, évidemment, les gens, pour le meilleur et pour le pire, s'ajustent. Est-ce que vous avez comment je pourrais dire, est-ce que vous avez souffert du fait que ce soit un peu invisible puis que parfois vous aviez des besoins particuliers?
C'est sûr que effectivement c'est parfois un peu invisible parce que justement avec des culottes longues, ça ne paraît pas au premier regard.
Ouais.
Donc c'est sûr qu'il faut vraiment expliquer peut-être un peu plus la situation puisque c'est pas moi, c'est pas des mains, c'est des jambes et que je suis en bas des genoux. Donc puis le fait que j'ai appris à marcher avec des prothèses fait que j'ai une démarche un petit peu plus dite naturelle.
Ouais.
J'ai pas réappris à marcher, j'ai pas fait de réhabilitation. Donc c'est certain que mettons pour des cours au secondaire par exemple, l'éducation physique, il fallait que j'aille dire à mon professeur, il y a des tests que je vais pouvoir faire, mais qui ne seront pas adéquats face à ma situation.
Est-ce que les gens réagissaient bien?
Oui, en fait, c'est certain que c'est tout le temps une surprise. Les gens, ils sont pas certains au début parce que pour eux, quelqu'un d'amputé ne marchera pas nécessairement comme moi, je vais marcher. Mm-hmm. Donc, c'est certain que c'est une surprise. Beaucoup de questionnements, puis c'est tout à fait normal parce que c'est pas quelque chose qu'on est confronté à tous les jours. Donc, c'est normal d'avoir un certain questionnement par rapport à ça.
Bon.
Mais il y a toujours un ajustement à faire à ce moment-là. Mm-hmm. Par chance, j'en ai pas eu beaucoup à faire dans ma jeunesse parce que j'étais vraiment très, très bien appareillée. Ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça.
Est-ce que le programme vous a aidé en ce sens-là?
Oui, mais en fait, le programme des amputés de guerre est vraiment... Les amputés de guerre ont été créés spécifiquement pour les personnes amputées de la guerre à la Première Guerre mondiale.
Mm-hmm.
De là vient le nom. Mais dans les années 70, ces vétérans-là se sont rendus compte que la situation d'amputation n'était pas seulement vécue par eux, mais par beaucoup d'autres gens autour d'eux.
Mm-hmm.
Donc, ils ont créé deux programmes distincts. Les vainqueurs, pour les enfants amputés que la plupart des gens connaissent, et pour les amputés adultes.
Okay.
Donc, les vainqueurs ont été créés vraiment pour les enfants amputés parce que c'est une situation vraiment plus spécifique, c'est-à-dire que l'enfant amputé va changer 2 à 3 fois dû à la croissance, bien évidemment, de prothèses. Donc, il y a besoin aussi d'un meilleur encadrement parce que grandir avec une amputation, c'est quand même ça peut être un fardeau pour certaines personnes et pour leurs familles. Donc, ils créent des séminaires régionaux à tous les années pour permettre justement à ces familles-là de se rencontrer. Et c'est comme ça, par exemple, que mes parents ont pu voir d'autres personnes amputées vivre une vie là, bien remplie.
Okay. Est-ce que vous sentez que les jeunes ont envie de participer à des activités pensées pour eux comme personnes amputées?
C'est certain que moi, je connais des gens qui font des sports spécifiquement par rapport à l'amputation, par exemple le hockey luge.
Mm-hmm.
Mais la plupart des jeunes amputés que je connais, c'est sûr que tout est différent par rapport à l'amputation, le niveau de l'amputation aussi. Mais la plupart des gens que je connais vont faire des sports avec des adaptations. Par exemple, le hockey, ils vont seulement adapter la main avec une prothèse pour pouvoir tenir le bâton de hockey adéquatement. Ils vont pouvoir jouer au hockey là, sans problème. Mais ça dépend vraiment du type d'amputation à ce moment-là. Donc, c'est certain que, par exemple, une de nos membres fait de l'escrime en fauteuil roulant. À ce moment-là, c'est certain que c'est à cause de son amputation. Elle ne pourrait pas faire des compétitions comme elle fait en fauteuil roulant.
Oui, ça prend beaucoup d'aide technique là, pour arriver à le faire en toute liberté, j'oserais dire. Est-ce qu'il y aurait un message que vous avez envie de porter, au-delà du fait là, que vous représentez ce programme-là, les vainqueurs, est-ce qu'il y a un message que vous voulez porter, vous, particulièrement?
Bien, en fait, en ce moment, on est en campagne des plaques porte-clés.
Oui.
Donc, c'est certain que nous, on n'est pas un organisme subventionné par le gouvernement.
Ah oui,
donc,
c'est complètement la charité ou la philanthropie qui vous fait vivre?
On vit complètement des dons du public.
Okay.
Donc, c'est d'autant plus important pour nous. Comme je disais tout à l'heure, un enfant amputé peut changer en 2 à 3 fois dû à la croissance de prothèses. Donc, c'est vraiment super important pour nous d'avoir ces dons-là pour...
Le gouvernement ne défraie pas toujours
les prothèses, effectivement. Surtout pour les prothèses récréatives, je vous dirais, c'est souvent une deuxième ou une troisième prothèse. À ce moment-là, nous, on vient combler ce manque-là.
Mm-hmm.
Donc, permettre vraiment aux gens amputés de rester actifs, d'avoir une vie qui leur permet de toutes les activités qu'ils veulent bien faire, vouloir faire. Donc, ça nous permet, nous, d'aider ces gens-là à continuer à vivre pleinement.
Bien. Brièvement, où on trouve l'information sur la campagne porte-clés en quelques secondes?
Oui, en fait, c'est dans le www.amputé avec un S de guerre www.cbc.ca. Il va y avoir un formulaire en ligne très, très simple que vous pouvez remplir pour recevoir les petites plates porte-clés. Mais en fait, les plates porte-clés, seulement pour spécifier à vos auditeurs, c'est un service qui est à la base gratuit. Mm-hmm. Donc, les dons, c'est vraiment, c'est vous qui décidez le don que vous voulez bien nous faire. C'est pas très, très compliqué à commander, comme je vous disais, sur le site Internet, ou vous pouvez nous appeler au 1-800-265-3030. Et à ce moment-là, on va pouvoir vous les commander. Il n'y aura pas de problème.
C'est très gentil. Merci de nous avoir témoigné de ce que vous avez vécu, à quel point vous aimez ce programme. Et merci, Cynthia Amel-Gamache.
Oui, oh, je veux juste spécifier le numéro, excusez-moi, c'est le 1-800-250-3030. Ça me fait plaisir de vous parler.
1-800-250-3030. On va l'indiquer d'ailleurs sur notre page. Merci, Cynthia Amel-Gamache.
Merci à vous.
Donc, Cynthia Amel-Gamache était notamment porte-parole pour les amputés de guerre et elle est venue nous présenter le programme Les Vainqueurs. Très important, il s'adresse aux jeunes amputés. C'est pas toujours facile de vivre cette réalité-là, mais on a envie d'être actif comme tous les jeunes. Alors, c'est pour ça que Amputés de guerre est là. Pour avoir plus d'informations sur les intervenantes et les organismes qui viennent ici à l'émission, visitez la page Accès libre qui est repérable sur la page de notre station, canalm.vuesetvoix.com, donc vue au pluriel, voix au pluriel.com. Aujourd'hui est avec nous Alain Jelly, porte-parole de la consultation publique sur la sécurité routière. D'ailleurs, vous pouvez encore répondre au questionnaire, déposer un mémoire pour dire... quels sont les besoins des personnes handicapées sur la route? C'est important. Vincent François, notre chroniqueur techno, était là. Carole Anglade, une chercheuse géniale qu'il faut suivre, était là aussi. Wassila Djabi, une militante inspirante pour le droit des femmes qui a besoin de soutien, de services de soutien à domicile, qu'on se le dise. Je veux aussi dire que Martin Forgue, un peu plus tôt, nous a présenté ce segment de Rock et Belles Oreilles qui s'est transformé en prix. Donc, merci beaucoup, Martin Forgue, pour ça et aussi à la recherche. Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine et en espérant, un jour, atteindre un véritable accès libre.